C'est pas forcément le jeu préféré des gamers purs et durs, et pourtant c'est un jeu qui tient, qui dure depuis près de 15 ans. Let's Sing, le meilleur jeu, ou en tout cas le jeu musical le plus puissant sur le marché européen. Et j'invite aujourd'hui le patron du studio qui le crée. Bonjour Nicolas Delorme.
Bonjour.
Donc vous êtes le patron de Voxler Games. En quelques mots, comment vous définiriez votre studio, votre structure ?
Alors nous, on est un studio d'une trentaine de personnes qui a Paris et Marseille. Et en quelques mots, on a créé la société il y a 20 ans maintenant.
Donc 2005, je
exactement,
crois.
Exactement, 21 ans même du coup. Et on s'est spécialisé depuis ce moment-là dans les... Alors au départ, la technologie pour, pour les jeux musicaux et finalement les jeux musicaux. Et maintenant, ça fait un moment.
Oui, parce qu'au départ, en fait, à l'origine, si on rembobine... Mmh. À la base, vous travaillez sur des technologies de reconnaissance vocale, et c'est avec l'IRCAM principalement qui est votre client principal à l'époque.
Qui était à l'époque, on a travaillé avec l'IRCAM en effet. Donc là, c'est il y a longtemps, on parle d'il y a 20 ans, où ils avaient des technologies d'analyse de la voix qu'on a repris et qu'on a amélioré pour les adapter aux besoins du jeu vidéo.
Et avant de créer donc votre propre licence de jeu, c'est en 2012, on va y revenir, mais vous avez été prestataire pour d'autres studios, d'autres jeux.
On a été au départ, on venait pas du monde du jeu vidéo, donc on se sentait pas capable de faire un jeu de A à Z. Donc on a développé la technologie d'analyse vocale qui a été mise dans de très nombreux jeux de karaoké de l'époque.
Et qu'est-ce qui fait qu'à un moment vous avez dit, tiens... tant qu'à faire, on va faire nous-mêmes nos propres jeux.
Alors en fait, on s'est rendu compte que dans un jeu de karaoké, il y a vraiment deux points clés. La playlist, bien sûr. Et puis...
On va y revenir parce que ça, c'est un cas très important.
J'imagine que vous allez m'en parler.
Et le deuxième point, c'est quoi ?
Et le deuxième point, c'est le fait que ça fonctionne vraiment. C'est-à-dire que si je chante juste, le jeu me dit bravo.
Valorisé.
Et si je chante vraiment très faux... le jeu te valorise peut-être
mais
un peu moins.
Quand même, vous devez quand même être assez tolérant avec les casseroles parce que sinon personne n'achète le jeu.
Exactement, on est quand même très très gentil parce que c'est pas un jeu pour devenir un professionnel du chant, c'est un jeu pour s'amuser en famille, avec des amis et pour faire la fête. Et donc on sait bien que dans le karaoké en général, les gens...
Il y en a beaucoup qui chantent faux, mais c'est ça qui rend la fête plus belle aussi.
Exactement.
Et d'ailleurs, le public, donc, comment vous le définissez ? C'est public familial, pas forcément des gens qui vont jouer sur la durée au jeu ?
Oui, familial, c'est exactement ça. Après, c'est pas que familial, on dit que notre jeu, est fait pour être joué entre amis, en famille. Typiquement, il y a beaucoup de jeunes, on va dire entre 10 et 16 ans, qui l'ont comme cadeau de Noël. Mais comme ça fait 20 ans que le jeu existe et que le genre existe, maintenant on a aussi des trentenaires qui adorent jouer à notre jeu ou des parents qui aiment y jouer avec leurs enfants.
C'est un peu le jeu où vous misez d'être dans la fête de Noël et du Nouvel An.
C'est ça. On voit très bien sur nos statistiques de jeux. Les gros moments, c'est les fêtes de fin d'année. C'est Noël, le Nouvel An, puis après, ça continue, mais pas autant, quoi.
Il n'y a pas d'autres jeux chez Voxler Games, ou en tout cas, ça, c'est le jeu principal, c'est vraiment votre spécialisation.
Ouais.
Pour être rentable, ça fait 15 ans, vous allez fêter la 15e édition bientôt, c'est quoi le nombre de copies à vendre pour pouvoir faire rentabilité plus sain ?
Eh ben, chaque année, on vend environ 200 000 exemplaires de notre jeu. Chaque Noël, enfin beaucoup à Noël et puis un peu en dehors. Et globalement, on est à peu près rentable.
Ça pourrait paraître pas si gros, en même temps, c'est important. On prend un exemple, Clair-Obscur, que j'ai promis de ne pas citer à mes équipes parce que je l'ai trop cité. C'est 8 millions de copies vendues, c'est le jeu de l'année. Vous, 200 000, on pourrait se dire, c'est pas beaucoup. En réalité, à l'échelle globale du marché, c'est solide, surtout si vous maîtrisez en fait vos coûts de production. C'est ça l'enjeu, en fait.
Oui, c'est ça. Et puis, en fait, on le sort chaque année. Donc, souvent, les studios, ils mettent 2-3 ans à sortir un jeu.
Ouais.
Nous, on en sort un chaque année, chaque Noël.
Il y a des choses déjà en place.
Et puis, on n'est pas si nombreux. C'est ça, on est une trentaine, on n'est pas 200 quoi, pour le faire.
Et donc, justement, c'est là où on arrive au sujet de la playlist, qui est l'enjeu. Et là, donc, je crois qu'il y a vraiment un enjeu, c'est sur l'acquisition des droits. C'est ça qui vous coûte le plus cher, c'est de négocier pour avoir le droit, par exemple, de mettre une Aya Nakamura dans le jeu.
Alors, négocier les droits pour les chansons, c'est compliqué, oui. Donc le processus pour choisir les chansons, déjà on réfléchit à quelles chansons on voudrait mettre dans le jeu.
Et lesquelles marchent aussi actuellement, les tendances.
Exactement, on a plein de data sur les chansons que les gens aiment chanter dans notre jeu. On regarde toutes les données de à quel point les chansons sont populaires ou pas. On regarde aussi si les chansons sont adaptées pour un karaoké, parce que globalement c'est quand même un épisode plutôt festif, enfin un moment festif.
Compliqué.
Oui, et puis c'est plutôt un peu festif. D'une chanson ultra déprimante, c'est pas forcément adapté. Voilà.
Donc il y a. Donc c'est très variété, variété française essentiellement. Il y a des chansons en anglais quand même.
Il y a des. Alors en fait, on fait plusieurs versions du jeu selon les territoires.
Ultra localisé. Hein.
C'est-à-dire que pour la version française, on a moitié de chansons françaises, moitié de chansons anglo-saxonnes.
Pas anglais.
Beaucoup anglo-saxonnes, oui. Exceptionnellement en espagnol, mais voilà. Après, on peut avoir un peu de K-pop ou des cas très particuliers, ouais. Mais voilà.
Parce que c'est à la mode, par exemple.
C'est ça. Et après, on a aussi, sur d'autres territoires, des versions localisées, une version allemande en Allemagne, une version espagnole en Espagne,
etc. C'est très logique, c'est un jeu qui est ultra localisé, donc les 200 000 copies, c'est à l'échelle européenne.
C'est sur les différentes versions. En fait, ce qu'on s'est rendu compte vraiment, c'est que les gens aiment chanter dans leur langue, en particulier dans les pays latins. En France, en Espagne, les gens aiment chanter en français ou en espagnol. Du coup, on fait des versions locales. Donc, c'est beaucoup de travail hein, de faire différentes versions. Parce que...
Vous trouvez la playlist parfaite. Et d'ailleurs, ce serait quoi la playlist idéale dans un jeu à latine ?
Alors, si je suis très commercial, c'est celle d'aujourd'hui.
Forcément, la dernière est la
meilleure. C'est ça. C'est la mieux qu'on ait réussi à faire, en tout cas. Après, il y a certains artistes, on essaye, et puis ils n'ont pas envie d'être dans le jeu, donc ça, on ne peut pas les forcer.
C'est autre chose, c'est la négociation.
C'est ça.
Ça peut être compliqué. Par exemple, j'ai vu que Stromae était dans les deux dernières versions, je crois, dans la 2024, la 2025. Ça veut dire que quand vous avez réussi à aboutir à une négociation avec un ayant droit, c'est plus facile de le faire revenir les fois d'après, en général ?
A priori, c'est plus facile, mais après, ça peut dépendre de choses qu'on ne maîtrise pas trop. Y en a qui peuvent refuser pendant des années, puis du jour au lendemain, ils changent de manager, et puis c'est plus facile.
Ouais, c'est voilà. Beaucoup d'humains, en fait.
C'est ça.
C'est une équipe quoi, juridique, acquisition de droits, qui travaille dessus ?
C'est ça. En fait, on a une équipe qui est vraiment spécialisée là-dedans, de deux personnes qui passent leur temps...
Avocat, juriste, beaucoup ?
Alors, surtout, en fait, un peu juriste et beaucoup, je ne sais pas si faut dire commercial. Enfin, il s'agit de relancer les gens pour avoir les droits.
D'ailleurs, vous ne négociez pas tant sur les prix, je crois, les tarifs, vous ne pouvez pas trop jouer là-dessus. Et vous payez aussi des droits à SACEM derrière, en fonction du nombre de ventes, c'est ça ?
Oui, c'est ça. En fait, on paye une avance, donc un minimum garanti sur un certain nombre d'unités. Et puis ensuite, on fait des rapports de ventes réguliers.
Comme une maison d'édition, le frais
exactement,
avec les auteurs.
Exactement.
Là, idéalement, comment vous imaginez le jeu évoluer dans 5 ou 10 ans ? Déjà, je dis ça, peut-être qu'il n'existera plus, mais moi, je vous souhaite qu'il continue d'exister, puisque vous remettez le titre en jeu chaque année. Mais dans 10 ans, à quoi ça pourrait ressembler ?
Alors ça, on ne sait pas, mais on essaye d'y réfléchir. Ce qui est sûr, c'est que le digital prend beaucoup de place. Alors nous, on a un avantage par rapport à pas mal de jeux, c'est qu'on est un jeu qui est assez fin de cycle. C'est-à-dire que, comme c'est un jeu très très grand public...
Et acheté à Noël,
et puis surtout, très grand public. Du coup, on voit les évolutions sur les autres jeux, les évolutions globales du marché, on les voit arriver sur les autres jeux.
Vous laissez les autres essuyer les plâtres.
Les jeux plus indépendants ou plus gamers, il faut qu'ils soient à la pointe des innovations. Nous, on sait que nos innovations, en tout cas sur les aspects très...
Reconnaissance vocale, ça c'est l'essentiel.
Alors, pardon, oui, si je reprends, sur la technologie, on continue toujours à améliorer les jeux, sur les modes de jeu, on continue toujours à l'améliorer. Après, sur à quel point il faut être digital ou orienté retail,
le grand enjeu chez vous, par exemple, ça a été le choix d'autoriser à utiliser un téléphone portable pour remplacer le micro. Ça, c'est un choix qui était indispensable. Sinon, vous auriez vu les ventes diminuer.
Alors... Ouais, mais en fait, c'est quand même beaucoup mieux de jouer avec un microphone. Donc, on essaye de faire en sorte que les gens puissent
continuer à acheter la
boîte ou le microphone tout seul. Mais après, oui, en effet, si on n'a pas de microphone, on peut jouer avec son smartphone, ça marche très bien.
Ça, c'est un indispensable pour vous, pour continuer quand même à vendre en digital.
Ouais. Après, sur Switch 2, il y a un microphone qui est intégré à la console. Et ça, ça marche. Donc, ça permet de chanter sans rien en main, quoi.
Oui, le micro est suffisamment puissant pour capter la voix dans la, oui, dans la pièce. Si vous n'aviez pas fait un jeu vidéo musical, vous auriez rêvé de faire quel type de jeu vidéo ? Quelle catégorie ?
Alors ça,
plus Doom, plus jeu de voiture, plus RPG clair-obscur.
Alors, je sais pas si j'aurais fait un jeu vidéo, parce que moi, je venais pas du monde du jeu vidéo.
Vous auriez créé un groupe de rock.
Et... Exactement, j'aurais peut-être plus été dans la musique.
Merci beaucoup, Nicolas Delorme. Je le rappelle, donc, le patron de Voxler Games, jeu à succès, Let's Sings, qui travaille déjà sur l'édition 2027, qui la termine, et vous commencez déjà à réfléchir à 2028, c'est ça ?
Exactement. Là, on finit le jeu qui sort ce Noël, donc Let's Sing 2027, et on prépare le suivant.
Toujours avoir un coup d'avance. On va parler d'un autre notre univers, un autre métier, scénariste. C'est pas du tout pareil, même si la musique de jeux vidéo, des fois, peut peut-être être influencée par le scénario. On va en parler avec une professionnelle, Sarah Beaulieu. C'était elle qui dirigeait les équipes narratives sur le jeu Assassin's Creed Mirage. Elle est avec moi dans quelques secondes.